Alors attention, détendez-vous complètement là. Hein. Détendez-vous complètement et établissez un contact avec les vaches. Établissez le premier contact est très important. Allez-y.
CO2, mon amour.
Très bien, vous allez parler à ces vaches.
Bonjour la vache, je m'appelle Antoine.
Tu es devant un animal qui n'aura aucun jugement sur ce que tu vas lui dire. Donc tu peux aller à l'extrême. Tu peux aller à l'extrême, te lâcher complètement.
Avec Denis Chessou.
Oui. Léa, obtiens la pureté de ce paix qu'aura réussi ton stage.
Sur France Inter.
Et oui, nous commençons toujours par un petit peu de poésie, vous le savez. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2, mon amour. La nature qui chuchote à vos oreilles avec quelques meux aujourd'hui. Alexandre Chenet est à la technique et assisté de Camille Blanès. C'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Avec une petite humeur, bah oui, parce que le silence est d'or, mais l'automne aussi. Réglée par la lumière, la marmotte vient de se coucher pour 6 mois. Elle dort. Plus il fait froid, plus les couleurs sont chaudes. La palette est au sommet de ses nuances, mélèze, être ou charmant folie. L'automne est un artiste. Mais c'est le réchauffement qui devient le maître du jeu. On lui a donné toutes les bonnes cartes depuis des années pour des centaines d'années peut-être. Alors jusque-là, l'humain s'en fichait, poli, remisant par devers lui les rapports scientifiques. Ceux qui ont de la mémoire se souviennent de Nicholas Stern, grand argentier britannique et mondial, qui annonçait il y a 15 ans que le coût de notre inaction climatique allait coûter bien plus cher au PIB que notre action au fur et à mesure. Feu au lac aujourd'hui, feu aux assurances, chaud aux fesses pour les glaciers, le thermostat de la planète s'est emballé. Tout seul ? Ah, ce n'est pas de la faute à la pénurie de semi-conducteurs, mais aux conducteurs occidentaux qui emmènent tout le monde au bord de la falaise, qui noient les îles, les terres. Car le serpent a trouvé son maître. On est tous montés dans le camion. Plus vite chauffeur, plus vite réchauffeur. On va multiplier par 3 ou 4 les éoliennes. Le gaz est ravi, la méthanisation et tous ses excès se réjouissent. Ça fera des histoires, du buzz pour les actus, pardi. Mais là, on n'a plus le temps. On a trop soulevé le tapis. Ce n'est pas de la poussière qu'il y a dessous. C'est l'avenir de nos petits, de nos mômes, nos jeunes qui gueulent car ils ont, eux, bien compris. Nos petits pas envient ceux de Gargantua qui enjambait le pays, qui pissait des rivières et qui allait bien plus vite que nos petits pas nucléaires ou embellis solaires pour tamponner l'affaire du siècle. Surtout ne rien imposer. Ah ben non, c'est punitif. Laissons faire le renard dans le poulailler libéral et trinquons le verre bien plein à la sobriété. Ça va mal se finir, prédisent les poissons, les castors. L'eau, comme l'automne, ressemblera à de l'or. Soif de plus, grimper au ciel, lui éclater la couenne d'un joyeux tourisme spatial, suppositoire fusé dans le cul de nos vanités. Soif de la terre et des sols, ciel qui balancera ses seaux ou ses boîtes d'allumettes un peu plus chaque année. De l'acide dans les coraux, plastique dans les boyaux, le pétrole, lui souriait, encore un bon paquet d'années à se laisser pomper. La terre voit ses oiseaux, ses arbres, ses plantes remonter vers le nord et des milliers d'espèces qui fêtent tous les jours ses morts. Noé, il avait repris du service, et oui, il sauvait tout ce qu'il pouvait dans son animal république en arche. Collés, colons des rustines, mais ne touchons à rien au camion en furie. La terre est bleue comme une orange, mais la terre aujourd'hui a les joues rouges orangées de trop chauffer trop vite. Et elle en verra d'autres, avec ou sans humains. Feu au lac, je vous le disais, fesses au chaud, secouez les vôtres, les nôtres, en Écosse, à Glasgow. Vous qui punissez nos mômes, G20 qui émet 80% des émissions, surprenez-nous. Dans sa résolution finale, hormis la Pologne, l'Australie et quelques autres pays, parce qu'il faut du positif quand même, hein, grande avancée, une majorité sera d'accord pour bannir l'expression « aller au charbon ». Alors, hasard de la programmation, donc Rémi Gaudry recevait donc tout à l'heure l'éleveuse Émilie Janin. Vous la retrouverez d'ailleurs dans un podcast que je l'avais tourné donc chez elle. C'était au mois de janvier 2020, donc chez elle en Côte d'Or. Eh ben, on va rester dans le pré, dans les champs, je vous le disais, mais des champs bien menés, créant de la biodiversité avec des vaches de Lorraine. Stéphane Naudet nous attend. Et vous allez voir qu'on est franchement à l'opposé d'un élevage productiviste. C'est bio et même plus. La découverte de quoi? Eh ben, du lait de foin. Qu'est-ce que ça? Eh ben, attendez quelques, 3 minutes.
Well, you just think that I'm some great survivor.
and you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we crawl to find our way, we even take the shape of something else.
Voilà de la belle musique de playlist pour entrer dans les champs. Les vaches, c'est bon, vous pouvez revenir à Daniel Ratliff et The Night Suites sur France Inter. Allez, on y va.
Je reste admiratif, parce que là, tu vois, dans la salle de traite, on a les vaches. Finalement, sont devenues dociles et puis qu'on arrive à manipuler, qu'on a domestiqué. Et puis à la fois, les hirondelles sauvages, et ça fait corps, quoi. Je veux dire, les unes ne dérangent pas les autres et finalement, on arrive à tout concilier. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est ce mélange de nature et puis d'élevage qui est fabuleux, quoi. Et c'est pour ça, arrêter l'élevage, ou critiquer l'élevage, mais quand il est fait de cette façon-là, je pense que...
Ah bah ça n'a rien à voir.
Ouais, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment identifier, que les consommateurs, les gens en ville puissent se rendre compte, quoi. Il y a des élevages, quoi. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac et voilà. Et je pense que pour des jeunes, il y a un avenir là-dedans, quoi. Et ça, c'est hyper important, quoi. Pour qu'on puisse maintenir les prairies, qu'on puisse maintenir notre biodiversité, l'ouverture des paysages, etc., quoi. Tu vois, là, la tranquillité qui règne, quoi. On va allumer, ben, y a rien, on va démarrer de traire, voilà, sans stress. Tu vois, les vaches ruminent en salle de traite, c'est tranquillou, quoi.
Eh ben, vous voyez, ou plutôt vous avez écouté, on ne vous a pas volé sur les hirondelles, hein, et tout était bien là. Oui, elles sont parties depuis. Venez me traire et accepter mon lait de belle qualité. Je suis productrice de lait de foin. Je suis une brune des Alpes, croisée Montbéliard. Nous sommes 75 dans le troupeau. Mon lait de foin a été créé par un collectif de producteurs de Lorraine et de l'Ouest. Bah oui, parce que figurez-vous que certaines vaches mangent encore de l'herbe et du foin bien séché. Eh ouais! Eh oui, on revient à ce que faisaient un petit peu nos anciens. C'est bio et mieux encore, vous allez comprendre. Le GAEC Remet, c'est une exploitation agricole familiale qui est située au nord de Toul, à 25 minutes de Nancy. Nous sommes à Royaumet, donc en Meurthe-et-Moselle. Et autour de nous, 170 hectares, en grande majorité attenant autour de cette ferme, hein, qui sont donc cerclés par la jolie forêt de la Reine, au sein du parc naturel régional de Lorraine. Stéphane Naudet, sa fille Clémentine, et puis Charlie aussi, parce que lui, il est maraîcher. Donc, il nourrit ses terres avec le bon fumier des vaches. Et tout ce petit monde-là, ben, ce sont des gardiens heureux d'un grand écosystème qui fonctionne, qui est viable économiquement et qui permet de s'affranchir du système dominant à base d'engrais, de pesticides, de pétrole. C'est joyeux tout plein. Donc, c'est à la fois une philosophie, une éthique, un bien-être, une biocohérence. Ouais, joli mot. Hein. Pour les animaux, les humains et les paysages. Stéphane Naudet, allez, on y va dans son champ à Royaumet.
Là, les vaches pâturent sur un espace qui est cloisonné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur laisser toute l'herbe. Ah, parce qu'elle mangerait le meilleur, quoi.
Ouais. Du coup... T'as les petites pousses.
Voilà, ce que les petites pousses, les repousses, etc. Ouais. Donc, pour gérer l'herbe, on cloisonne ce qu'on appelle le parcellaire. Et du coup, les vaches mangent sur une surface donnée. Et du coup, elles mangent tout, quoi. Et ouais. Du coup, après, tous les jours, on les change de parcelle. Et ça nous permet, il faut toujours penser que le temps de pousse qui est au printemps et un petit peu à l'automne, je veux dire, il faut qu'on pense à l'hiver. Donc, faut que sur la même surface, il faut qu'on arrive à les nourrir quand l'herbe pousse et à faire le stock pour l'hiver.
On passe devant le maraîchage de votre fils. Et là, au loin, et là, on a toutes ces vaches qui attendent parce qu'elles savent que vous allez arriver et vous allez les ramener à la traite.
Voilà. Là, donc, elles ont passé la nuit. On va regarder finalement ce matin où en est la taille de l'herbe, si elles ont bien mangé, et on va pouvoir les changer, ouvrir une autre parcelle.
Ouais.
Donc là, tu vois, c'est relativement calme. Voilà, et là, on va les remonter pour aller les traire. Elles vont manger un peu de foin, et puis elles vont repartir pour une journée de pâture. Voilà, et le quotidien est comme ça, je dirais, jusqu'à l'automne-hiver, en gérant un peu les aléas climatiques. Et là, c'est vrai que c'est la belle période, c'est le printemps, ça pousse même vite. Donc c'est ça qu'il faut gérer. Senti le chien.
Ah oui, immédiatement lorsque Nell s'approche, voilà. Votre border collie,
elle se rassemble parce qu'elle sent le chien. Donc le chien va s'arrêter, on va voir. Et après, on va l'envoyer chercher les dernières.
Hop là, ça détale. Ce fameux lait de foin. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, vous qui êtes bio depuis tout petit, quoi ?
Le lait de foin, c'est la reconnaissance de tout ça. C'est-à-dire que c'est un lait à base d'herbe et de foin. Voilà, il n'y a pas d'aliments fermentés, et ça, c'est vraiment la grosse différence. On n'alimente pas ni d'ensilage de maïs, d'herbe ou de bottes d'enrubanées où il y a beaucoup de plastique, ce qu'on peut voir aujourd'hui beaucoup dans les champs.
Donc apporte beaucoup d'acidité.
Et qui apporte de l'acidité dans la panse de la vache, qui est quand même un vrai problème, surtout quand il est donné en grosse quantité. C'est, je dirais, l'alimentation la plus saine et la plus naturelle, quoi, ce qu'on a toujours fait. Quoi. Une base d'herbe, un complément de foin qui nous donne le meilleur lait, surtout un lait fromageable. Quelle que soit la région, ça c'est important.
Ouais.
Un lait qui puisse faire un bon fromage partout.
Qu'est-ce que vous mettez sur le pain, vous trempez hein?
Ah ça, c'est du maroilles.
Du maroilles, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un fromage que je fais un petit peu fort.
Vous voulez goûter? Non.
Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur.
C'est bon. Hein?
Ah, c'est aussi fort une fois à l'intérieur.
C'est bon ça quand on trempe dans le café. Ça adoucit.
Allez, trempez.
Vous fournissez, vous, après, à qui ? À des fromagers ?
Voilà, on fournit à la fromagerie du lac, hein, à 100%, je dirais. Aujourd'hui, 80%, mais lui travaille que notre lait, parce qu'il recherchait un lait, je veux dire, en absence de butyrique, c'est-à-dire un petit champignon qui se développe et qui fait éclater les fromages, qui est présent dans beaucoup de lait aujourd'hui.
Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque l'on va récupérer de l'herbe et qu'elle est mouillée, ce qui se fait quand même assez couramment aujourd'hui.
Voilà, c'est-à-dire que la technique permet aujourd'hui de récolter de l'herbe jeune, de plus en plus jeune, et du coup, elle est fauchée, elle est très peu travaillée, elle est vite emballée. Donc cette technique-là permet de récolter vite, mais à ce problème qu'on récolte aussi de la terre humide. Et après, quand ça retombe dans l'alimentation de la vache, on la retrouve sous forme de petits spores butyriques qu'on appelle dans le lait. Et le problème de ça, c'est qu'une fois qu'on fabrique les fromages, pâte cuite ou non cuite, ils ont tendance à gonfler ou à éclater. C'est pour ça que dans tout le type de fromage, Emmental, Comté, Beaufort, etc., l'aliment fermenté est interdit. Et le lait de foin répond donc aujourd'hui à ça à 100%. Quoi. Et le gros intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de donner une appellation. Les appellations sont très bien, mais pour les personnes qui travaillent de la même façon avec un cahier des charges comme celui du labio et du lait de foin aujourd'hui, eh ben on peut faire des fromages d'une qualité exceptionnelle. Quoi. C'est important aujourd'hui de développer cette filière-là parce qu'elle répond à une attente sociétale, au bien-être animal, elle préserve les prairies, mais de façon extraordinaire. Hein. On développe de la biodiversité partout et je pense que c'est important quoi, que beaucoup d'éleveurs qui aujourd'hui sont en limite, ne retrouvent pas leur compte, puissent venir rejoindre cette filière-là parce que c'est une filière d'avenir quoi, en termes de qualité. Quoi. Voilà. Tout fromage aujourd'hui qui va sortir de formation recherchera ce type de lait.
Ah, qu'il est beau le débit de lait. Ah, qu'il il est laid, le débit de l'eau, débit de lait, si beau débit de l'eau, s'il est laid. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau Bobby. Au débit de lait, il y a la belle Babé. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le Bobby et la Babé sont ennemis.
Sinon, pour tout un chacun, on pouvait se dire que, bah voilà, lorsque l'on fait des foins, on attend qu'ils soient secs pour l'enrubaner, quoi.
Voilà, alors, on a aussi besoin de faire de foins plus jeunes, quoi. Donc nous, on a investi il y a une quinzaine d'années maintenant dans un séchoir à foin. Hein, on récolte en vrac et on le sèche de façon simple en le ventilant. Mais je connais d'autres éleveurs qui n'ont pas ce système-là, mais qui font simplement du foin et du regain et qui prennent de l'avance. Il faut accepter de baisser sa production, de travailler avec ce que nous donne la nature, hein, c'est-à-dire de ne pas forcer. S'il n'y a que 3 tonnes ou 4 tonnes de matière sèche à l'hectare, eh bien, il faut travailler avec ça et adapter son troupeau à ça. Et après, je veux dire, voilà, forcément, en termes de bien-être animal et de qualité laitière, on va s'y retrouver. Hein, plus on pousse une vache à produire, plus on amène des problèmes physiologiques. Ici, le veto, on le voit quasi pas, on est sorti des antibiotiques. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est important, quoi. Donc oui, aujourd'hui, un élevage mené en bio, façon extensive, lait de foin, pour un jeune, c'est tout juste, quoi. Tu coches vraiment toutes les cases et c'est vraiment l'avenir, parce que c'est durable, voilà, ouais. C'est durable.
Je vais rejoindre la fille de Stéphane. Bonjour Clémentine Naudet.
Bonjour Denis.
30 ans, donc travailler en bio, bah, c'est une évidence depuis le début, non?
Je ne saurais pas faire autre chose parce que j'ai toujours connu que ça. Ouais. Si on me demandait de faire autrement, je ne saurais pas, tout simplement.
Quand vous arrivez sur une ferme conventionnelle,
Je ne saurais pas par où commencer parce que la démarche est complètement inversée de ce que nous, on peut faire tous les jours, quoi. En termes de soins, par exemple. On stimule l'immunité de l'animal et en allopathique, on va dire en général, on fait l'inverse en fait, on va contre la maladie. Ouais. Et donc rien que ça, c'est ce que j'appelle l'inverse pour moi de la nature, quoi. Ouais. Nous on travaille avec la nature, on travaille pas contre.
Et on est sur un exemple quand même assez parfait de polyculture élevage parce que donc il y a le maraîchage dont s'occupe votre frère. Et là aussi, les excréments sont nécessaires.
Tout à fait. On va dire les déchets entre guillemets de légumes, tout ce qui n'est pas valorisé part au compost avec le fumier des vaches. On composte tout ça et on s'en sert pour remettre dans la terre pour ramener de la matière organique. Et les vaches, elles, dans les pâtures, font la matière organique toutes seules. C'est-à-dire qu'on fait faucheuse à l'avant, une vache et épandeur à l'arrière.
C'est ça, exactement.
Okay. Et il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul.
On n'a pas l'impression en fait de réinventer, j'allais presque dire l'eau tiède, parce qu'en fait c'est aussi ce que faisaient nos anciens, de respecter les différents cycles, d'avoir cette matière qui redevient féconde.
Alors je ne sais pas si on a réinventé, toujours est-il qu'on y est revenu et qu'on l'a adapté à ce qu'on nous demande maintenant, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce que faisaient les anciens, parce qu'on l'a dimensionné à une taille qui permette de rentrer dans la société actuelle, surtout au niveau économique. Ce qui n'était pas le cas des anciennes générations qui travaillaient à petite échelle pour eux-mêmes ou pour le village. Aujourd'hui, on est dans...
Vous tourner une dizaine de vaches.
Voilà, mais même moins que ça, et tourner à 4-5 vaches, en fait, c'était pour leur propre consommation, ce qui n'est plus le cas actuellement. Aujourd'hui, on est obligé d'être à une échelle d'entreprise. Voilà.
Je cherche mon chien pour qu'il descende. Oui.
Parce qu'elle va trop vite sur les vaches, parce que c'est un jeu pour elle. Ah, et donc il faut tout le temps l'avoir à l'œil, parce que sinon elle est capable d'aller nous chercher le troupeau, alors qu'il faut la laisser tranquille en train de manger.
Ah oui, elle n'est pas encore tout à fait au point, on va dire.
Elle a été un peu trop dressée, parce que je l'ai achetée dressée, mais elle a été un peu trop conditionnée à mon goût. C'est-à-dire que dès qu'elle voit une vache, elle va dessus. Nel ? Vas-y, viens au pied. Non, viens au pied. C'est fini, couche. Couche, pas bouger.
Voilà, fini le boulot. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, par exemple, à des gens qui sont véganes, parce qu'il y en a plein, donc qui ont votre âge, parce que là, on voit bien que s'il n'y a plus ces bêtes-là, qu'est-ce que l'on fait de ces paysages, entre autres ?
Eh bien, même les végétariens, parce que le lait est une chose, mais pour avoir du lait, il faut des naissances. Donc, qui dit naissance, dit veau, et donc il faut un débouché, quand même, pour le veau. Et donc, si on enlève un maillon de cette chaîne-là, c'est-à-dire de manger du lait, des légumes, des céréales et de la viande, ce qui, pour moi, est un tout et cohérent, eh bien, il manque un aspect de la chaîne, c'est-à-dire qu'on va avoir des vaches, on va leur faire faire un veau pour avoir du lait. Mais qu'est-ce qu'on fait du veau ? Ouais. Est-ce qu'on le tue à la naissance, ou est-ce qu'on l'élève et qu'on a un débouché et que derrière, on le mange ? Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Donc si on pousse le truc plus loin, on mange plus de viande, plus de lait, du coup il n'y a déjà plus d'animaux du tout. Donc il n'y a plus de parc, il n'y a plus que des céréales. Et du coup, sans animaux, plus de matière organique pour nourrir la céréale, donc chimie. Donc au final, on se retrouve avec des étendues de céréales, comme on peut voir dans certaines régions, avec que de la chimie. Et du coup, plus d'herbe, il y a plein d'insectes qui disparaissent, plein d'animaux qui disparaissent. Il va rester de la forêt et des céréales. On perd quand même tout un écosystème qui, pour moi, est essentiel à la vie et même pour nous, humains. Je veux dire que sans tout ça, on va un peu à notre perte.
Ah on a de la visite, là. C'est bien. C'est là, on voit le caractère des différentes vaches. Il y en a qui sont plus intrépides, plus curieuses que d'autres sont peureuses. Voilà.
Tout à fait. Là, c'est une petite jeune. Elle a fait son premier veau il y a quelques jours. Oui. Donc, elle est très curieuse. Et le chien, elle découvre aussi parce qu'elle ne connaissait pas avant de rentrer dans le troupeau.
De toutes les vaches, de toutes les génisses, des pays bretons ou berrichons, de la Normandie, du Jura, de la Suisse, c'est le qui nous fait le meilleur lait. C'est la vache qui rit, c'est la vache qui rit, pour la plus grande joie de tout le pays.
Oui, vous l'entendrez qu'une fois, hein. Ça c'est pas du tout en playlist France Inter, mais vraiment là avec Xavier Pestugia, on n'a pas résisté. Voilà, mais écoutez, en tout cas, peut-être que plus tard il y aura de la viande qui sortira, de la non-viande d'ailleurs, qui sortira donc des startups de Californie, c'est formidable. Et alors sinon, petit hommage quand même à André Pochon, je dis ça parce que c'était donc quelqu'un qui a vraiment à la fois théorisé, expérimenté en Bretagne, tout cet aspect à l'air, tout ce travail à l'air, c'est à lui d'ailleurs que l'on doit cette formule, regardez et une vache, ça a une barre de coupe à l'avant et donc un épandeur à l'arrière. Voilà. Et c'est bien parce que tout ça fait des petits. J'avais rencontré il y a 20-25 ans et j'espère qu'il est encore en forme. On continue le voyage dans quelques instants.
Belle ode à la maternité, donc signé Camille Fontaine de Lait, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Donc ce lait pour les bébés et puis aussi d'autres formes de lait pour les veaux. Dans les deux cas, c'est nourricier, il ne manque plus que du lait d'ânesse. Appelez-moi Cléopâtre.
CO2, mon amour.
Et le fromage. Il n'est pas bon, le fromage.
Denis Chessou.
Ça, il faut reconnaître que c'est meilleur à manger qu'à sentir. Hein.
Sur France Inter.
Comme ma chérie, il n'est pas bon le fromage. Mais si, tout va bien. Donc nous poursuivons ce voyage, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas où on est la pluie chez vous, voilà. Donc là, nous revenons dans ce merveilleuse fin de printemps. Donc chez Stéphane Naudet, Clémentine, sa fille, Charlie, son fils qui est maraîcher. Donc tout ceci fonctionne très très bien. J'allais presque dire en autarcie parce que, oui, il y a d'autres systèmes, on le sait. Ce n'est pas la majorité, mais c'est toujours intéressant de comprendre comment on fait. Et puis c'est donc aussi un hommage à l'herbe, on l'a compris. Donc avec Stéphane Naudet, toujours à Royaumet, dans ce département de la Meurthe-et-Moselle.
voulais vous montrer cette diversité de trèfles, de minettes, de légumineuses, mais vraiment, voilà, avec quelques graminées. Et ça, c'est venu tout seul, quoi, avec le temps. Et ça, il faut des années et des années pour l'avoir. Mais à la fauche, là, c'est une prairie qui va être fauchée avant d'être repâturée. Ça va faire un foin extraordinaire, extraordinaire. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est qu'il soit fait dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire qu'il pleuve, que la météo soit pas avec nous. Mais s'il est fait dans de bonnes conditions, là, c'est tout juste.
Et là, il y a tout ce qu'il faut pour, bien sûr, nourrir une bête, la soigner, on a tout.
C'est quasi un médicament. La diversité florale fait que la vache se soigne toute seule en s'alimentant et en prévention. C'est-à-dire qu'elle prend les anticorps qu'il faut, elle va lui donner les anticorps qu'il faut, elle va fabriquer ce qu'il faut pour pouvoir lutter contre tout ce qui peut lui arriver. Et ça, c'est la base. Une très très bonne ration fibreuse de base, de foin. Voilà. Et le lait de foin, tout est là, quoi. Voilà. Tout est là dans le lait de foin. Ça, c'est important.
Qu'est-ce qu'on appelle la minette ?
La minette, c'est une petite légumineuse qui ressemble à une petite luzerne, qui fleurit jaune. Et là, on regarde au sol, hein, on voit bien cet équilibre légumineuse, graminée. Il se fait tout seul, quoi. Aujourd'hui, je dirais, notre ferme, elle fait déjà de la biodiversité avant de produire du lait et du légume, quoi. Ça, c'est important. Et voir aussi que là, tout est bordé, on entend les oiseaux. Voilà, ça, on sait déjà que ça va protéger du vent, l'humidité. On voit les oiseaux, les insectes, l'humidité qui est présente. Et ça, c'est important, quoi.
Ce sont vos climatiseurs naturels, voilà. Les vaches adorent. Voilà.
Et ça, il faut le protéger, hein. C'est la garantie pour les jeunes, demain, d'avoir un peu de sérénité dans leur vie, quoi.
On va prendre, mettons, 5 hectares. S'il y a des haies ou s'il n'y a pas de haies, qu'est-ce que ça donne pour une prairie ?
Alors c'est ça, c'est-à-dire passer une surface, je dirais, de 5 hectares. Mais alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des choses qu'on a pu lire bien avant. Hein. J'ai retrouvé un ouvrage des années 60-70 qui en parlait déjà. Si une surface passée 5 hectares n'est pas entourée de haies et de forêts, le cœur, s'il y a une grosse forte sécheresse qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire 3 mois sans eau, ne repartira pas en végétation dans l'année. Par exemple, l'an passé, on n'a pas eu d'eau du 5 juillet et ça a replu au 23 ou 24 septembre. Et du coup, il se passe encore un mois, on a de l'herbe qu'en octobre. Et ça veut dire que le cœur, qui est, j'irais, brûlé à fond, ne reprendra vie qu'à la fin de l'hiver, quoi. Alors aujourd'hui, quand on voit des surfaces de 60-100 hectares défrichées complètement, beaucoup d'inquiétude, quoi.
Oui, parce que l'assurance vie, elle est là. Elle part de la terre, mais elle part de la terre quand elle est aussi entourée.
C'est ça.
De cette diversité qui nous est chère.
Voilà, il y a l'herbe, la céréale, le végétal, l'arbre. L'arbre a vraiment toute sa place. Je dirais, c'est par là qu'il faut commencer. Hein, moi, je dirais, quelqu'un qui reprend une exploitation ou qui repart de quelque chose qui a été complètement défriché, la première chose à faire, c'est de poser des piquets de parc, remettre du bois, des lignées de bois pour que la haie reprenne, les arbres reprennent vie, et après, il va recréer une biodiversité là-dedans, et les cultures s'en sentiront protégées et nourries, quoi. Et l'humus que ça apporte, toutes ces feuilles-là qui vont se déposer sous la prairie, nourrit la prairie, quoi. Je pense que des systèmes, par exemple, tout simple, de mettre deux fils de clôture et laisser venir ce qui vient. Alors, c'est sûr, au début, on a peut-être des chardons, des choses un peu indésirables, mais après, rapidement, les premières broussailles arrivent. Mais une broussaille positive. Ouais. Hein, pas une broussaille, je dirais, la mauvaise herbe. Non, non, tout ça, c'est positif. Et après, des augers arrivent, etc., etc. Et ça se fait tout seul. Hein. Les poiriers sauvages arrivent et là, on a tout gagné.
Ouh
hein, une mare.
Ouais, il y a un étang.
Voilà,
une petite mare.
Il y a tout un projet avec le parc de restauration des mares. Hein, on en a une autre là-bas aussi. Mais comme aujourd'hui, de moins en moins de main-d'œuvre sur les fermes, personne n'entretient, ça se referme, ça se bouche, et ces zones humides disparaissent. Quand elles ne sont pas retournées, détruites, pour, j'irais, y mettre
drainées,
etc., etc.
Alors ce qui est dingue aujourd'hui, c'est quand même tout ce système qui est quand même extrêmement verrouillé par la chimie, par des compensations diverses et variées, au nom d'un rendement maximal, et qui ne rend pas plus heureux les éleveurs ou les agriculteurs.
Voilà, parce qu'une prairie, par exemple, comme celle-ci, si tu mets beaucoup ce qu'on appelle d'ammonitrate d'azote, hein, quelle que soit sa forme finalement, bah tu vas tuer toutes les légumineuses qui font le boulot, c'est-à-dire capter l'azote de l'air pour la mettre dans le sol. Donc du coup, c'est sûr, ça va faire beaucoup de volume, mais un volume de graminées, pauvre. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe ? T'as beaucoup de volume, t'es obligé de compenser en protéines, donc t'achètes du soja, etc., etc. Et on reste, du coup, on fait tourner un système, alors que naturellement, une prairie, elle va moins de données, mais si elle est équilibrée, t'as rien besoin de faire de plus.
Alors, où est-elle ?
Elle est là.
Hein ? Et qu'est-ce qu'elle a ?
Je l'avais mise dans l'herbage, et puis il a plu. Alors elle tousse. Je demande si elle ne s'est pas enrhumée.
Ah, dis donc, j'espère qu'elle est inscrite à la sécurité sociale, hein ?
Non.
Ah, c'est obligatoire pour tout le monde, ça. Bon, ben, en attendant, je vais voir la malade. Ah, j'ai besoin d'une petite cuillère bien propre, hein.
Mais qu'est-ce qu'il y a ?
Dans la chambre, Il y a une vache.
Eh oui, c'est Marie.
Oh, c'est pas d'un docteur dont vous avez besoin, mais d'un vétérinaire.
Non, mais je n'osais pas le faire venir parce que j'avais peur de la traumatiser.
Non, mais vous êtes fou. Croyez tout de même pas que j'ai fait 7 ans de faculté de médecine pour venir ausculter une vache.
Stéphane, je vois juste à côté des Holstein, donc évidemment c'est pas chez vous, puisque donc celle-là, elle relève donc d'une agriculture, d'un élevage conventionnel.
Ouais, ouais, c'est des collègues qui sont conventionnels et...
Vous discutez avec eux.
Ouais, ouais, il n'y a pas de problème, on est... On a un passage chez eux, etc. Je crois qu'on a des très bonnes relations. Mais ils sont à la fois admiratifs de ce qu'on fait et ils disent, nous, c'est trop tard pour nous, quoi, de faire le saut, quoi. Et c'est dommage parce que je dis, c'est des gens qui... Enfin, voilà, ils se donnent à fond, pas de vacances, 7 jours sur 7, sauf tous les matins. Et ils ont un goût amer de leur fin de carrière. Et c'est quand même terrible que des paysans aujourd'hui qui ont suivi le système... qui ont 40 ans, 50 ans d'exercice professionnel, arrivent à 60 ans, déjà avec une retraite qui sera une misère, je veux dire aigris, déçus, en se disant pourquoi on a travaillé, quoi. C'est dur, quoi. Moi, j'ai du mal de voir avoir des collègues qui sont presque au RSA, je veux dire, c'est pas normal. Et je me dis, c'est quand même tout un système qui exploite une main-d'œuvre d'exploitants, je crois que c'est ça. Et ils sont exploitants agricoles, mais ils sont exploités eux-mêmes, quoi, je veux dire. Hein. Mais ceux qui gagnent, c'est pas eux, quoi. Je crois que peut-être ce qu'on a loupé, nous, c'est l'enseignement. Il n'y a pas eu assez de plein d'enseignement pour que les jeunes très jeunes, enfin je veux dire, dès 15 ans qui sont en école d'agriculture, puissent entendre ce discours-là. Quoi. Mais que ça ne soit pas une option. Hein. Oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore une option. Quoi, hein. Parce que c'est sûr, passer une heure, comme on vient de le faire, à regarder les vaches brouter, pâturer, mais c'est ça qu'il faut commencer par faire.
Observer.
Observer, voilà. Qu'une vache a une grande langue pour... arracher l'herbe, qu'elle va en ingurgiter pour se remplir la panse et qu'après elle va passer un temps à ruminer. Voilà. Et aujourd'hui, on apprend plutôt quoi ? On apprend une alimentation à brin très court, c'est-à-dire qu'il va faire 4-5 cm dans une mélangeuse avec un équilibre soi-disant de ration, qu'on fait des savants calculs. Voilà. Et finalement, la vache fait ça tout seul. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus ? Et ça, il faut que ça se rattrape très vite, hein, parce qu'on a besoin aujourd'hui de renouvellement important dans la profession, parce qu'il y a énormément d'agriculteurs qui partent en retraite, et les gens qui se présentent, surtout dans des espaces comme les nôtres, sont des gens qui sont, je dirais, néo-ruraux, comme on dit aujourd'hui, et le temps de formation doit être long, long, c'est 4-5 ans. Et on ne forme pas un agriculteur en une année. Hein. Et je crois que là aussi, il y a des choses à revoir au niveau de la formation agricole. Il faut du temps.
Boulommier et poisse. Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, Abondance, Mondor, Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Sous-Maintrain, Roux de Brie, Tête de Moine, Mimolette, Boursin, avec 60% de matière grasse.
Là où vous gagnez en fait votre vie, ça se passe où ? Ça se passe au niveau de certaines transformations, de la vente directe, évidemment d'utiliser beaucoup moins de produits, d'utiliser beaucoup moins de fuel que les autres. C'est un mélange de tout ça ?
Voilà, c'est un mélange de coûts d'élevage. Quoi. C'est sûr qu'un système pâturant extensif, le coût de la mise en place, c'est un investissement. Une fois que vous avez installé vos clôtures, vos piquets de parc, vos fils, c'est un investissement pour 25-30 ans. Hein. Et du coup, le système pâturant est quand même le système le moins cher. La vache fait le boulot, quoi. La vache fait le boulot. Tout comme pour la fauche, je veux dire, qu'est-ce qu'on a besoin de conditionner l'herbe pour gagner un jour ou deux jours de séchage ? Certes, mais derrière, on se retrouve avec une plante qui a été massacrée dans une machine, qui a plus de feuilles, la sève est sortie, et au niveau...
Ça fait sortir la sève.
Ça fait sortir la sève de la tige pour qu'elle sèche plus vite, mais du coup, on perd de la valeur énorme dans la plante. Et qu'après, bah forcément, on va compenser avec des choses achetées de l'extérieur, beaucoup plus de compléments alimentaires. C'est toujours le même système, quoi. Il faut que la ration de base, qu'elle soit à base d'herbes fraîches ou séchées, soit la plus simple possible.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait demain ? Il faudrait une PAC différente quand même ?
Il faut une PAC différente qui soutienne à la fois, je veux dire, toute la partie élevage extensif, je veux dire, qui soutienne fortement la plantation, hein, parce que je pense qu'on en a un besoin vital, ne serait-ce que pour respirer, quoi. Donc c'est-à-dire qui considère la haie, qui considère les arbres isolés comme une vraie production agricole, quoi. Et pas des surfaces qu'on enlève au paiement, quoi. Et soutenir un peu, je dirais aussi, la main-d'œuvre employée sur les fermes. Ça, c'est important aussi. Si on veut retrouver de la vie dans les milieux, dans le milieu rural, il faut absolument que les fermes embauchent du monde, puissent embaucher du monde, parce que quelqu'un tout seul ne peut pas s'en sortir, ne pourra pas remettre en place un système pâturant, planter de la haie, s'occuper des arbres, etc., les entretenir. C'est trop de travail, quoi. Là, il nous faut vraiment de la main-d'œuvre.
Et oui, ça c'est notre joyeux système qui n'apporte que des réponses techniciennes, mais surtout sans rien changer culturellement, et on garde l'enseignement agricole, hein, qui dépend du ministère de l'Agriculture, qui n'a donc strictement rien à voir avec le ministère de l'Écologie, hein, ça se parle un peu, mais voilà, très très moyennement. Et on verra pour la PAC, mais enfin qui continue donc à être subventionné le nombre d'hectares que l'on dévaste les sols ou pas. Merci à Stéphane Naudet, à Clémentine, Charlie, je n'oublierai pas non plus Carole, donc, et Soleil de Foin. Vous avez toutes les informations sur le site de CO2, mon amour. Merci à Romain Lenoir qui a mixé donc ce reportage, à Camille Blanès, à Xavier Pistugia qui a colorisé, comme d'habitude, donc cette émission. Anne Gouzon pour les sites, Thierry Dupin. La semaine prochaine, on va ouvrir le grand procès des animaux. Avec qui ? Avec Jean-Luc Porquet, qui est le monsieur environnement du canard enchaîné, vous verrez. Et puis n'oubliez pas donc le Twitter et Instagram de Nichessou. Enfin voilà, donc ça vous en avez aussi donc l'habitude. Surtout, n'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche.